Chapitre 17. Ourat première. Il advint que celui que l'on appelait l'Aphrysien fut fort courroucé par les intolérables souffrances que les hommes infligèrent à leur mère la terre. Pendant 40 jours, il se retira dans un désert, transforma la pierre en métal, puisa le feu dans le sol et fabriqua un grand vaisseau. Pendant 40 ans, il recensa les justes. Ourat deuxième. Il advint que l'Aphrysien rassembla les justes dans le grand vaisseau de fer et décida de les guider à travers l'espace. Ainsi quittèrent-ils leur mère la terre, et ce fut pour eux une grande source de chagrin. Et l'Aphrysien leur dit que de nouveaux mondes les attendaient, vierges et pures, beaux et riants. Ils lui en furent reconnaissants et séchèrent leurs larmes. Ourat troisième. Il advint que le voyage dura plus longtemps que ne l'avait prédit l'Aphrysien, et que les justes en conçurent de la colère et du dépit, et de nouveau les envahit la tristesse d'avoir quitté leur mère la terre. L'Aphrysien les exhorta à la patience et leur promit qu'ils recevraient bientôt une nouvelle mère en récompense. Ainsi, il apaisa leur courroux et leur redonna l'espoir. Ourat quatrième. Il advint que les justes se querellèrent au sujet des livres saints qu'ils avaient emportés avec eux et que se formèrent 3 clans, les clans de Rome, de Mecque et de Sion. Un temps domina le clan de Rome, un temps domina le clan de Mecque, un temps domina le clan de Sion. Ourat cinquième. Il advint que l'Aphrysien fut pris à partie par le clan dominant de Sion et contraint de porter le titre de prêtre. Et l'Aphrysien feignit d'accepter les exigences du clan de Sion pour éviter que les justes ne meurent en trop grand nombre. Mais la folie s'empara des justes de Sion, et ils profitèrent du sommeil de l'Aphrysien pour se livrer aux pires abominations. Ils égorgèrent les hommes des clans de Rome et de Mecque, ils violèrent les femmes, ils décapitèrent les enfants. Ourat sixième. Il advint que le clan dominant de Sion éjecta dans le vide les corps des justes de Rome et de Mecque qu'ils avaient assassinés, et que l'Aphrysien, s'apercevant de cela, se résolut à le punir de sa méchanceté. Ainsi, il endormit les justes de Sion avec un gaz qui provoque le sommeil et les entassa dans une dérive de secours. Il leur fit don d'une image holographique de leur mère la terre pour qu'ils se souviennent à chaque seconde de leur bassesse. Extrait des contes et légendes de notre mère la terre. Livre papier daté de 1002, calendrier de Naphlin, trouvé dans une bibliothèque de la Nouvelle Athéna, capitale de la Nouvelle Mars. À l'intérieur du cachot de glace du Torial, à l'abri des courants d'air qui provenaient des accès de surface, la température était relativement agréable et constante. Les gardes princiers avaient enfermé les condamnés dans une vaste cellule, séparée en 2 parties par une cloison translucide. L'éclairage se limitait à une seule bulle lumière fatiguée, dont les rayons ne parvenaient pas à débusquer les ténèbres tapis sous les plafonds et dans les angles des murs. Un paravent sommaire isolait, très mal, c'est pourquoi Jacques, extrêmement pudique, préférait garder pour lui le contenu de sa vessie et de ses entrailles, un espace qu'un garde avait pompeusement appelé « les toilettes de ces messieurs-dames », et qui n'était en fait qu'un trou aux bords inclinés pratiqué directement dans le plancher de glace. San Francisco et Phoenix s'étaient retirés dans la pièce du fond. Le petit Andjorien, assis sur l'une des couchettes de bois brut, dépourvu de matelas, percevait leurs soupirs étouffés et se demandait ce qu'ils étaient en train de fabriquer. Sa curiosité était d'autant plus vive que les longs gémissements qui s'exhalaient de la bouche de Phénix s'apparentaient aux plaintes d'une suppliciée. De temps à autre, il tournait ses regards vers la cloison et apercevait, au travers de la mince épaisseur de glace, les taches brunes et noires de leur corps et leurs chevelures emmêlées. Un moment, n'y tenant plus, il s'était levé de sa couchette et s'était dirigé vers l'étroite ouverture qui reliait les 2 pièces. Mais Robin de Fart lui avait saisi le poignet et lui avait ordonné de ne pas déranger les deux Gersalimines.
« Ils ne se sont pas vus depuis plus de 20 ans, »
avait chuchoté le vieux Syracusain.
« Et une femme et un homme, lorsqu'ils s'aiment et qu'ils se retrouvent après une aussi longue absence, ils ont envie de... eh bien, d'être seuls. Il ne leur reste que très peu de temps pour exprimer leur amour. Ces quelques heures leur appartiennent. »
Bien que Jack n'eût pas compris grand-chose dans le discours confus de Robin, il lui avait obéi, au nom de la sagesse que l'on prête généralement aux anciens. Il y avait aussi une certaine soif de connaissance dans le désir qui poussait Jack à se rendre dans l'autre pièce et à observer un homme en train de faire du mal à une femme au nom de l'amour. Il avait déjà surpris ce genre de lamentation en passant devant la porte de la chambre de Pa et Ma Atskin.
Mais jamais il n'avait osé entrer, de peur de découvrir sa mère mutilée et ensanglantée.
Il y avait également, et surtout, la peur du monstre caché de Marty, dont les yeux luisants, les yeux immobiles et attentifs de prédateur, ne cessaient de le dévisager. Jack refusait catégoriquement de se laisser envahir par le sommeil. Il tentait de prolonger l'état de veille en se raccrochant à des pensées, à des souvenirs, secouait de temps en temps ses épaules et ses membres las, s'efforçait de maintenir ouvertes ses paupières de plus en plus lourdes. En revanche, il voyait avec effroi Robin de Fart dodeliner de la tête, et il craignait de se retrouver subitement seul face à Marty. Alors, il décida de faire parler le vieux Syracusain.
« Robin, tout à l'heure, tu as dit à San Francisco que tu avais lu un livre antique. C'est quoi ce livre ?»
La question tira de sa torpeur Robin, surpris et flatté de l'intérêt de Jack pour ses divagations d'érudit.
Il contenait une map monde et un texte qui donne un éclairage insolite sur la Jérusalem céleste et sur les planètes de l'univers connu. Mais cela reste une simple théorie, Jack.
C'est quoi une théorie ?
Une hypothèse, un montage intellectuel. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment vérifier. J'avais entendu parler d'une bibliothèque extraordinaire sur Nouvelle-Mars, l'une des premières planètes colonisées.
Une quoi ?
Une bibliothèque, une pièce où sont entreposés d'antiques livres papier. Je me suis donc rendu à Nouvelle-Athéna, la capitale du continent Nouvelle-Aphrysie, où j'ai été reçu par un conservateur. Il m'a expliqué que ses lointains prédécesseurs avaient mis au point une technique de conservation du papier, si bien que la bibliothèque recense des livres vieux de plus de 6 000 ans. 6 000 ans, tu te rends compte, Jack? De précieux témoignages de l'histoire de l'humanité. Le conservateur m'a autorisé à passer 3 jours à l'intérieur de la salle des livres. 3 jours. Un laps de temps dérisoire pour prendre connaissance de milliers et de milliers d'ouvrages, rédigés pour certains dans les langues terriennes mortes, pour d'autres dans des versions primitives du nafle interplanétaire. Pour d'autres enfin, dans des dialogues parlés par une poignée de peuplades dispersées.
La voix de Robin prenait de l'ampleur au fur et à mesure qu'il progressait dans son discours, comme s'il puisait une flamme nouvelle dans chacun des mots qui sortaient de sa bouche. Tout en l'écoutant d'une oreille distraite, Jack jetait de fréquents coups d'œil sur Marty, assis sur une couchette opposée à la sienne et dont l'étrange fixité le faisait ressembler à un robotomate déprogrammé. Les soupirs et les gémissements de Phoenix et San Francisco avaient cédé la place à des chuchotements et des rires étouffés. La jeune femme semblait plutôt heureuse d'avoir été malmenée par le prince des Américains. Et cette constatation rassura Jack sur la santé mentale des adultes qui se livraient au jeu de l'amour. Ma Atskin pouffait probablement de la même manière que Phoenix, après que Pa lui avait fait du mal. Était-ce vraiment du mal? La différence principale entre les amoureux et les suppliciés, c'était que les suppliciés, eux, n'avaient jamais envie de rire. Pa? Ment, Jack avait l'impression qu'il n'avait jamais existé, qu'il n'était que des personnages issus de son inconscient. Il doutait même de la réalité d'une planète nommée Ugène, d'une ville nommée Anjor, d'un ghetto souterrain nommé le Terrarium Nord, du vieux Quarantin nommé Artrarak. Pendant 2 jours et demi, j'ai feuilleté des livres en me fiant uniquement à leurs titres, du moins à ceux que j'étais en mesure de traduire. La plupart d'entre eux n'offraient aucun intérêt pour l'ethnosociologue que j'étais. Ils racontaient pratiquement tous la même histoire, à quelques variantes près. La légende nouvelle martienne du chevalier des étoiles et de la princesse Azaphée, la 29e fille du roi Kaminos. Et puis, au crépuscule du 3e jour, j'ai été attiré par un gros livre couvert de poussière et que je n'avais pas remarqué jusqu'alors. Le titre en était « Contes et légendes de notre mère la Terre ». Encore et toujours des légendes, soupira Jack.
C'est également ce que je pensais lorsque j'ai vu ce livre. Encore et toujours des légendes. Cependant, peut-être parce que c'était l'ouvrage le plus ancien de la bibliothèque, je l'ai consulté jusqu'au bout. Il avait été imprimé en 1002 de notre ère, alors que les vagues de colons déferlaient encore sur les planètes de l'univers connu. Certains contes se déroulaient sur la Terre des origines et racontaient de manière imagée la terrible guerre des pensées qui mit fin à la civilisation de l'Homo sapiens.
C'est quoi, l'Homo sapiens ?
Robin libéra un rire frais comme une eau de roche.
L'Homo sapiens, en 2 mots. Cela signifie l'homme sage, qui d'ailleurs n'était pas aussi sage qu'il se prétendait, puisqu'il s'est ingénié à détruire sa planète. Ça et là, je devinais des coïncidences troublantes entre la map-monde, les ourates, les paragraphes, du texte et certaines thèses historiques. La naïveté de ces légendes me confortait dans l'idée, combattue par beaucoup d'historiens modernes, que les humanités étaient originaires d'un seul monde et qu'à la suite d'une catastrophe, la guerre des pensées, elles avaient essaimé dans l'univers à bord d'immenses vaisseaux de fer.
À cet instant, San Francisco et Phoenix sortirent de la pièce du fond et vinrent s'asseoir sur une couchette libre. Il avait passé sa cape et elle son manteau d'oursi gris, mais à en juger par leurs jambes nues et par les bandes de peau cuivrée que dévoilaient les échancrures de leurs vêtements, ils ne portaient rien en dessous. Des cernes profondes soulignaient les yeux de la jeune femme, agrandis par la fièvre, et un ineffable voile de langueur s'était posé sur ses traits délicats. Comme la femme vaincue par les baisers de son compagnon dans le tube souterrain d'Anjor, elle était particulièrement belle dans la défaite. Des coins de l'œil, Jack entrevit les courbes adorables de sa poitrine, qu'épousaient des mèches de ses longs cheveux, et il en fut à la fois troublé et définitivement réconcilié avec la nécessité du mal d'amour.
« J'espère que nous ne vous dérangeons pas, » dit San Francisco à l'adresse de Robin.
« Mon cœur n'a pas laissé le temps à ma tête d'en apprendre davantage sur le livre dont vous m'avez parlé tout à l'heure. »«
Vous êtes ici chez vous, prince !»
s'exclama le vieux Syracusain, intérieurement ravi.
« Ni mon cœur ni ma tête ne reconnaissent comme mien ceux qui ont condamné mes invités, dont un enfant, à mort !»
lâcha le Gersalémine d'une voix sourde.
« Votre civilisation est peut-être fondée sur une imposture, » reprit Robin après un petit moment de silence. « Vos prétendus territoires de la Jérusalem céleste ne sont en réalité que les anciens pays de la terre d'origine, de Terra Mater. Ainsi, Phoenix et San Francisco sont des noms de villes qui ont existé, si j'en crois la map-monde détaillée du livre de la bibliothèque de la Nouvelle Athéna, il y a plus de 8000 ans de cela. L'une se situait à l'ouest d'un pays nommé États-Unis d'Amérique, et l'autre au sud-ouest de ce même pays. J'avais fini par oublier le livre de Nouvelle Athéna, la map-monde et la légende s'y référant. Mais devant le globe sacré, et bien que la mémoire des vieillards connaisse hélas, quelques défaillances, tout m'est peu à peu revenu. vous avez dit que ce livre avait été imprimé en 1002. Or, selon le registre des exégètes, nos ancêtres se sont installés sur Jérusalem en l'an 9 de notre ère, dit San Francisco. Il y a donc de fortes probabilités que la cartographie de ce livre se soit inspirée du globe sacré.
J'ai pris cette éventualité en compte, prince, mais plusieurs arguments m'ont amené à l'éliminer. D'une part, on retrouve certains des mots inscrits sur le globe sacré dans le langage, dans les chants traditionnels et dans la mythologie des peuplades aussi anciennes que le peuple élu, et qui n'ont pas eu de contact avec quelque civilisation extérieure que ce soit avant l'an 5000. Ce sont des souches qui ont vécu en totale autarcie pendant plus de 50 siècles, ce qui revient à dire qu'elles n'ont pu s'inspirer ni de la Bible, ni du globe. Des tribus à peau noire de Platonia invoquent par exemple Africa, l'Afrique, le pays de leurs origines, lequel est l'un des trois continents de la Jérusalem céleste. Pour les Jaokoïstes, des mondes du Levantin, le paradis post-mortem porte le nom d'Empire du Soleil Levant, l'autre dénomination du Japon, l'île la plus orientale du globe sacré. Et je pourrais citer de nombreux exemples. D'autre part, je crois que l'Abinélian, l'homme qui guida le peuple de Fraël sur Jérusalem, et Bertheline Naphlin, l'homme qui fonda la confédération de Naphlin, ne forment qu'une seule et même personne.
Phénix se redressa et fixa Robin de Fart d'un air presque farouche. Jake fut traversé par une envie violente d'aller se glisser dans l'échancrure du manteau de fourrure de la jeune femme et de se pelotonner dans la chaleur de sa poitrine.
« Sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela ? » demanda-t-elle.
« Sur rien de très concret, je dois l'avouer. Bertheline Naphlin fut celui qui rassembla des milliers de terriens à l'intérieur d'un vaisseau et qui, le premier, tenta l'aventure spatiale. Il est fort possible que le nom d'Elian et le titre d'Abin lui aient été donnés au cours du voyage par la fraction religieuse dominante, celle qui se référait à l'ancienne Bible de Terra Mater et qui se proclamait le peuple élu. Quelques paragraphes des légendes du livre de Nouvelle-Mars évoquent cet épisode. Il advint que l'Aphrysien, le pionnier de l'espace, le fondateur des humanités des étoiles, fut pris à partie par le clan dominant de Sion. Autre nom de Fraël, n'y a-t-il pas des filles d'Hésion sur Jérusalem ? Et contraint de porter le titre de prêtre. Il advint que le clan dominant de Sion éjecta dans le vide les hommes qui refusèrent d'adorer leur livre saint, la Bible de Terra Mater, et que l'Aphrysien se résolut à le punir de sa méchanceté. Ainsi, il endormit les justes de Sion avec des gaz qui provoquent le sommeil et les entassa dans une dérive de secours. Et il leur fit don d'une image holographique de la terre pour qu'à chaque seconde de leur existence, ils se souviennent de leur bassesse et programma la dérive pour une petite planète couverte de glace, Jérusalem. Puis l'Aphrysien poursuivit son voyage vers les mondes du centre où il apporta la magie du verbe des Indivédas. J'ai cité de mémoire. L'Aphrysien en question, c'est sûrement Bertheline Naphlin, le descendant du fondateur de l'Aphrysie, et les Indivédas, la science indique dont Afikit, la fille de mon ami Sri Alexou, est la dernière dépositaire. Ce raisonnement ne prétend pas à la perfection, mais il a le mérite, ou l'excuse, de présenter une certaine cohérence. Les Jérusalémines des premiers temps ont dressé un globe et des cartes d'après les données de l'image holographique dont parle la légende. Une image qui s'est peut-être détériorée pendant le voyage. Ce qui expliquerait pourquoi vos ancêtres n'ont pris en compte que 40 pays des plus de 150 d'origine.
De tout cela, je conclus que la Jérusalem céleste n'est rien d'autre qu'une reproduction tronquée de Terra Mater, la terre des origines. Veuillez m'excuser, un besoin pressant. Les fonctions de la vessie des vieillards sont d'inversement proportionnelles à leur activité cérébrale. Elles ont tendance à s'accélérer avec le temps. Il se leva et se glissa derrière le paravent de bois. Pendant qu'il se soulageait, San Francisco et Phoenix, troublés par sa démonstration, demeurèrent silencieux, songeurs. Jake craignit qu'ils ne s'en retournent immédiatement dans leur pièce pour un nouvel affrontement d'amour et ne le laissent seul avec Marty, toujours immobile sur sa couchette. Mais la jeune femme relança Robin aussitôt qu'il revint s'installer sur son lit de bois, situé à côté de la porte blindée de la cellule. « Votre hypothèse ne nous éclaire guère sur le rôle des migrateurs célestes ?»«
L'Exaxas, » soupira Robin. « Avant de découvrir le globe, je n'avais pas remis leur existence en cause. Mais à présent, j'avoue que j'ai des doutes. Sont-ils réels ? S'agit-il de simples croyances issues de l'inconscient collectif ?»«
Ils sont aussi réels que vous et moi, » affirma la jeune femme. « Mes yeux ont vu trois d'entre eux congelés dans la muraille du cirque du Golan, comme je vous vois. Or, vous n'êtes pas un produit de l'inconscient collectif.
Même en tant que prince gouvernant de la tribu des Américains, je n'ai jamais été informé de la présence de ces trois migrateurs célestes dans la paroi de glace. »
s'étonna San Francisco.
« L'ancien a bien voulu me raconter leur histoire. Ce sont trois chasseurs de la tribu des Espagnols qui, en l'an 6700, les ont découverts à la suite d'un brusque mouvement de la croûte planétaire. Les Abines ont immédiatement mis à mort les trois Espagnols et déclaré le cirque du Golan zone taboue.
« Pour quelle raison ?» intervint Robin. « Ces Xaxas, prisonniers des glaces, constituaient une preuve formelle des promesses de la Nouvelle Bible. Ils risquaient justement de devenir les rivaux des Abines, » souligna San Francisco. Le peuple élu se serait rapidement débarrassé du joug abinien et aurait fondé un nouveau culte sur les migrateurs célestes.
Robin se releva une seconde fois, mais il ne se dirigea pas vers le paravent. Il marcha de long en large entre la porte blindée de la cellule, les couchettes de bois et l'ouverture de la cloison. Il n'avait plus du tout envie de dormir.
« C'est comment, Xaxas ?» demanda Jake à Phoenix.
La jeune femme sourit au petit Tangerien, qui dut se retenir pour ne pas aller se jeter dans ses bras.
Il aurait tant aimé avoir une mère comme elle, même pour quelques minutes. Long, brun, et tellement replié sur lui-même qu'on ne distingue pas grand-chose. Une carapace épaisse et brune, des cristaux, une tête en forme d'obus, une queue en éventail, les membranes repliées des ailes.
« Reste maintenant à savoir s'ils sont vraiment équipés pour transporter des humains, » murmura Robin. « Et si oui, sur quel monde ils les déposeront ? Une expérience que j'aurais volontiers tentée, mais les Abines en ont décidé autrement. Je ne serai qu'une victime de plus de l'éternelle opposition entre la religion et l'esprit scientifique, entre le dogme et l'expérience. » Pour ce qui me concerne, il n'y a rien de bien tragique dans cette condamnation. L'aile de la mort s'est déjà posée sur moi, et personne ne m'attend. Mais pour vous, pour eux,
il désigna Jacques et Marty d'un mouvement de menton. San Francisco repoussa Phoenix, se laissa tomber de la couchette et vint s'agenouiller devant Jacques.
Mon cœur saigne et me supplie de te demander pardon, prince des hyènes.
Souffla le Gersalémine.
Je maudis le fol orgueil qui m'a poussé à vouloir interférer dans ton destin. Sans moi, tu serais resté avec le viduc Papironda. Tu aurais sûrement trouvé le moyen de lui échapper et de poursuivre ta route. Je croyais être le serviteur des dieux. Je n'ai été que l'instrument de l'esprit du mal.
Les oursigres des neiges ne nous ont pas encore mangés,
bredouilla Jacques. Gêné par l'attitude de San Francisco, un homme droit, généreux, qui ne méritait nullement les reproches dont il s'accablait.
Je ne parle pas des oursigres. Tu peux sûrement les vaincre comme tu as vaincu les hyènes du désert nucléaire du Djen. Je parle du froid. Ils nous dévêtiront entièrement avant de nous jeter dans le cirque des pleurs. Phénix et moi te couvrirons de nos corps, mais ils se transformeront très rapidement en blocs de glace. J'ai assisté à plusieurs exécutions en tant que prince régnant.
« Combien de temps peut-on résister au froid ?»
demanda Robin. « 5 minutes pour les plus vigoureux. J'ai vu des hommes et des femmes courir ou sautiller sur place pour retarder l'échéance. Mais tôt ou tard, le froid finissait par les agripper, remontait le long de leurs jambes, leur paralysait le bassin, les poumons, le cœur, les bras, le cou, la tête, et ils s'effondraient comme des pierres sur la banquise.
Et qu'advient-il des corps?
Les oursigres s'en chargent. Ils les poussent d'abord avec leurs pattes antérieures jusqu'à leur repaire, les décongèlent en se couchant dessus et les dévorent. Une pâleur extrême glissa sur le visage du petit Anjorien, qui se mit à claquer des dents et à grelotter comme si l'évocation du supplice du cirque des pleurs l'avait d'ores et déjà gelé. Il eut beau se recroqueviller dans son manteau de fourrure, il ne parvint pas à se réchauffer. « M'accordes-tu ton pardon, prince des hyènes ?» insista San Francisco, levant un regard implorant sur Jack. Phénix vint s'asseoir à côté du petit Anjorien. Sans dire un mot, elle ouvrit largement son manteau, lui saisit la nuque puis, d'un geste doux mais ferme, l'amena vers sa poitrine et rabattit les pans de son vêtement sur ses épaules. Il put enfin reprendre vie sur les coussins tendres et brûlants de ses seins. La respiration sifflante et régulière de Robin de Fart lacérait méthodiquement le silence. San Francisco et Phénix s'étaient de nouveau retirés dans la pièce du fond. À l'issue d'une nouvelle salve de soupirs, de gémissements, de rires et de chuchotements, ils semblaient s'être endormis. Jack avait eu l'impression d'être brutalement chassé hors du paradis terrestre lorsque Phénix s'était écarté de lui. Il aurait bien voulu rester plus longtemps, toute la nuit même, dans sa tiédeur, dans sa douceur, dans son ensorcelante odeur corporelle. Mais elle avait choisi de partager les dernières heures de la nuit avec San Francisco. Jack n'en avait conçu aucune jalousie. Il ne pouvait pas éprouver de la jalousie à l'encontre de quelqu'un comme San Francisco. Mais il avait ressenti une immense frustration. Il flottait entre veille et sommeil, écrasé de solitude et de tristesse. Les yeux grands ouverts et luisants de Marty étaient des taches claires aux contours de plus en plus flous. La vigilance du monstre caché ne se relâchait à aucun moment. Il guettait le premier assoupissement du petit Anjorien pour agir en toute tranquillité, en toute impunité. « À quoi bon lutter ?» se disait Jack lorsque le sommeil se faisait particulièrement insistant. « Mourir de la main du monstre ou du froid du cirque des pleurs, est-ce que cela faisait une différence ?» Son menton retombait alors sur sa poitrine et il se laissait happer par une puissante spirale qui l'emmenait vers le pays où les pensées se transforment en rêves, où plus rien n'a vraiment d'importance. Puis, au moment où il s'apprêtait à couper toutes les cordes le reliant au monde réel, son instinct de survie prenait le relais. Un sursaut brutal secouait tout son corps et sa tête se projetait vers l'avant. Il ouvrait précipitamment les paupières, se demandait pendant 5 secondes ce qu'il fabriquait dans cette pièce froide et mal éclairée, rencontrait 2 éclats blancs et menaçants dans son champ de vision, se souvenait qu'il était enfermé dans une cellule du cachot de Torial, plusieurs centaines de mètres sous la surface d'un monde de glace, que des prêtres à la mine sévère l'avaient condamné, lui et ses compagnons de captivité, à être offerts en pâture à des animaux sauvages, que le monstre caché de Marty avait l'intention d'abréger les quelques heures qui lui restaient à vivre. Il se rendait compte qu'il n'atteindrait jamais Terra Mater, la terre des origines, qu'il ne deviendrait jamais un guerrier du silence, un être qui voyageait sur les pensées, qu'il avait trahi la mémoire d'Arthrarak, le vieux quarantin du Terrarium Nord. Jack Atkin, l'aventurier, avait présumé de ses forces, n'était pas taillé pour affronter l'univers et ses dangers.
et lui revenaient en mémoire les paroles de Patskin, ce spectre persifleur si riche en proverbes, maximes et dictons de toutes sortes.
« Les enfants croient que tout est possible. Les jeunes pensent qu'il leur est possible de tout faire. Les adultes font de leur possible. Les vieux ont l'impression d'avoir couru après l'impossible toute leur vie. »
Jake se sentait très vieux. Non seulement il avait couru après l'impossible, mais sa vessie le torturait comme Robin de Fart. Il n'osait pas se rendre derrière le paravent de peur d'être suivi et étranglé par Marty. Les quatre petits mètres qui le séparaient des toilettes de ces messieurs-dames lui apparaissaient comme un trajet interminable et semé d'embûches. Et puis la pression à la fois agaçante et délicieuse de sa vessie gonflée sur son bas-ventre l'empêchait de sombrer définitivement dans le sommeil. Voilà qu'il n'y tient plus, qu'une brusque impulsion le pousse à se lever, qu'il se dirige vers le paravent. Le regard intense de Marty lui lèche la nuque. Il contourne la petite muraille de bois. Le trou est beaucoup plus large qu'il ne l'avait imaginé. Il se bat avec son pantalon récalcitrant. Les premières gouttes s'échappent avant qu'il n'ait eu le temps de déboutonner sa bringuette et son urine tiède se répand sur ses jambes. À cet instant, avant qu'il n'ait eu le temps de sortir son petit robinet, ainsi Manhattan avait-elle rebaptisé, depuis qu'elle s'était convertie au creutzianisme, ce que les petits utigéniens appelaient entre eux le garou ou le petit dur. Un bras s'enroule comme une lanière autour de son cou et commence à lui comprimer la trachée artère. Ses bras giflent l'air tandis qu'un flot puissant et continu jaillit de son petit robinet. Il perçoit le souffle de Marty dont l'avant-bras se resserre comme un filin d'acier et lui coupe la respiration. Il manque d'air, il étouffe, il veut pousser un cri, donner l'alerte à San Francisco et Phoenix, mais rien d'autre ne sort de sa gorge qu'un gargouillement pitoyable. Le genou de Marty s'enfonce brutalement dans ses reins et le pousse vers le trou. Les pieds du petit Anjorien dérapent sur les bords incurvés et glissants, perdent contact avec le sol, s'agitent dans le vide. Un voile pourpre lui tombe sur les yeux. Ainsi s'achève la pièce de sa vie. Il n'a pas le temps de saluer comme les chanteurs du Tigénir après leur récital. Il tombe dans une fosse noire où règne une suffocante odeur d'excréments.
« Jake, mon Dieu !»
hurla Phoenix. Poussée par une envie pressante, elle avait jeté son manteau sur ses épaules, s'était engouffrée dans l'étroite ouverture et s'était dirigée à grands pas vers le paravent. Elle avait soudain remarqué quelque chose d'anormal, s'était arrêtée et avait rebroussé chemin. Son cri réveilla San Francisco qui glissa instinctivement la main dans la poche intérieure de sa cape, étalée sur lui comme une couverture. Il poussa un juron lorsqu'il se rendit compte qu'elle était vide. Il se souvint alors que les gardes lui avaient retiré sa dague. Il sauta de la couchette sans prendre le temps de s'habiller et se rua entièrement nu dans l'autre pièce. La jeune femme était penchée sur la couchette de Jake.
« Il est trempé de la tête aux pieds !»
murmura Phoenix.
« Tu m'as fait peur !» soupira San Francisco. J'ai cru qu'il lui était arrivé quelque chose de grave.
On ne peut pas le laisser dans cet état. Il risque de mourir d'hypothermie avant même de sortir de la cité.
Donnez-lui mes vêtements, fit une voix morne. Marty sortit d'un recoin sombre de la pièce et s'avança vers eux. Je ne crains pas le froid, ajouta-t-il en esquissant un sourire. Bien que dissocié des implants basiques de la cuve, l'autre avait intégré les données historiques fournies par ses compagnons de captivité et s'était livré à un rapide calcul des chances de survie de son véhicule corporel. La femme Gersalemine prétendait avoir vu des Xaxas congelés, et il n'y avait aucune raison objective de mettre son témoignage en doute. Il estimait donc à 98,25% les probabilités d'existence des migrateurs célestes. En revanche, pour ce qui concernait la date de leur passage et leur aptitude à fournir de l'oxygène et de l'eau à leurs parasites humains, deux éléments qui ne reposaient que sur une exégèse d'un livre sacré, le pourcentage tombait instantanément à 14%. Ensuite, si la Gersalem de lumière n'était rien d'autre que la reproduction de Terra Mater, la démonstration de Robin de Fart avait été assez convaincante à ce sujet. Il y avait une mince mais réelle possibilité que l'un des buts de leur migration ne soit rien d'autre que la Terre des origines, et par conséquent, l'objectif final de sa propre mission. Probabilité évaluée entre 1,5 et 1,9%. Pour résister au froid, il lui suffirait d'implanter un programme d'insensibilité dans le cerveau de Marty. 100%. Enfin, il ne voyait qu'une arme à opposer aux oursigres sauvages du cirque des pleurs, les pouvoirs d'humain source de Jack, qui avaient déjà fait leur preuve face aux hyènes du désert nucléaire du Gen. Il avait donc immédiatement opté pour un nouvel aiguillage. Non seulement il devait épargner la vie du petit Andjorien, mais encore faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider à survivre. Bien sûr, hormis les plus de 90% de probabilité d'erreur sur la date du passage, le métabolisme et la destination d'Exaxas, il restait une inconnue, le degré de résistance de Jack au froid. « Pas plus de 5 minutes pour les plus vigoureux », avait dit San Francisco, « donc entre 2 et 3 minutes pour un enfant de 8 ou 9 ans. Dès lors, il faudrait un concours de circonstances extraordinaires pour que l'émigrateur céleste se pose sur le cirque des pleurs, éloigné de plusieurs dizaines de kilomètres de leur aire supposée d'atterrissage, pendant ces 2 à 3 minutes-là. 0,012%. 0,058% si l'on incluait d'une part la faculté qu'avait un humain source comme Jack de satelliser les éléments extérieurs comme les soleils capturent leur planète, d'autre part la fraction d'inconnu, d'impondérable, qui régissait les hommes, ce qu'ils appelaient, de manière courante, intervention divine, miracle ou encore roue du destin. Quoi qu'il en fût, ce 0,012% était supérieur au 0,04% que lui proposait l'élimination immédiate du petit Andjorien. Il aurait été irrationnel de sa part de ne pas jouer cette infime chance à fond. Au cas très probable où il échouerait, le froid se chargerait de tuer Jack à sa place. Le troisième conglomérat Arcot choisirait un nouveau véhicule humain, lui implanterait une greffe mentale autonome et le lancerait sur les traces des ennemis ultimes de l'hyponérose. Phoenix entreprit de déshabiller Jack. Il se réveilla, surpris de se retrouver ailleurs que dans une fosse excrémentielle. Les visages souriants de Phoenix et de San Francisco était penché sur lui. Il aperçut au second plan Marty en train de retirer son épaisse combinaison. Il prit alors conscience qu'il avait fait un cauchemar. Puis, lorsqu'il sentit l'humidité poisseuse de ses vêtements, il s'aperçut qu'il s'était oublié dans son pantalon, et une vague de honte le submergea. Les gardes princiers, vêtus de leurs épaisses combinaisons de surface et armés de fusils à propagation lumineuse, vinrent les chercher 1 heure plus tard, leur entravèrent les chevilles avec des courtes chaînes métalliques, les entraînèrent dans une succession de couloirs et d'escaliers et les escortèrent jusqu'à la place du Torial, où s'était assemblée une foule immense malgré l'heure matinale. L'accoutrement du jeune Gok, habillé de ses seuls sous-vêtements de coton léger, et de l'enfant emmailloté dans un manteau de cuir resserré par des bouts de tissu effiloché, souleva une nuée de clameurs et de rires dans les rangs de l'assistance. Les abîmes, parées des toges et des coiffures pourpres du deuil, et quelques princes, dont le prince Vancouver des Canadiens, sortirent d'une porte dérobée du bâtiment des assemblées et s'alignèrent devant les condamnés. Ils marmonnèrent entre leurs dents une incompréhensible suite de sons plus ou moins chantés qui évoquèrent à Jack les prières creudiennes qu'expédiaient rapidement Pa et Man Atkin au début et à la fin des repas. Les corps figés dans les piliers du Torial les contemplaient d'un air à la fois étonné et horrifié.
« Abin, je vous en conjure, prenez ma vie, mais épargnez celle de ces 3 gox !»
dit San Francisco d'une voix forte lorsqu'ils eurent cessé de psalmodier.
Ils sont venus sur Jérusalem en toute confiance et ne sont en rien responsables des fautes que vous me reprochez. « Qui es-tu pour nous donner des ordres ?»
rétorqua Nabin.
« Ceci n'est pas un ordre, mais une prière. L'Éden n'est qu'enfer sans le pardon, » dit un verset du livre d'Exasas.
« Le pardon n'est que faiblesse lorsqu'il s'adresse aux Gox. »
rétorqua le prince Vancouver avec un détestable petit sourire.
« Emmenez-les !»
La remontée de l'artère principale des lianes, qui s'étirait sur 5 kilomètres, prit plus de 3 heures. La plupart des Gersalémines s'étaient massées dans ce boyau qui, bien que nettement plus large que les autres rues, paraissait encore trop étroit pour canaliser toute cette multitude. Les gardes princiers avançaient en rang serré, se frayaient le passage à coups d'épaule et de crosses de fusil, mais ils ne pouvaient, ni ne voulaient, empêcher les grêles de coups de poing de s'abattre sur San Francisco et sur les Gox, les mains des femmes d'agripper la longue chevelure de Phénix, leurs ongles de creuser des sillons empourprés sur ses joues et son cou. Les condamnés affrontaient une hydre à mille têtes, à mille bras, à mille bouches, une bête féroce aux yeux étincelants de haine, qui déversait sa fureur et sa frustration sur le couple maudit, sur les Gox qui avaient eu l'audace de fouler le sol sacré de Jérusalem et de profaner le temple 800 millénaire de Salmon.
« Gox, 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 faux frères humains, impurs, nés d'une semence infecte et d'un ventre putride, reniés par le globe, prince félon, putain, puis souillés !»
Comme l'aigreur et la colère n'auraient pas cours sur la Jérusalem de lumière, où ne régnerait qu'amour, douceur et compassion, les membres du peuple élu exploitaient la dernière occasion qui leur était offerte d'exprimer des ressentiments auxquels ils étaient attachés comme à des vêtements usés, confortables, portés si longtemps qu'ils auraient eu l'impression, en les jetant prématurément, de s'amputer d'une partie d'eux-mêmes. San Francisco et Phénix s'étaient placés de chaque côté de Jake pour le protéger des atteintes de la foule. Les courtes chaînes dont les anneaux leur comprimaient douloureusement les chevilles les contraignaient à progresser à petits pas. La pente de la rue allait s'accentuant et le petit Anjorien s'accrochait à la cape de San Francisco et au manteau de Phénix pour ne pas déraper sur la glace, lisse à force d'avoir été piétiné. Ils longèrent l'immense portail métallique et noir du Soukto, l'entrepôt où les filles des Sion procédaient au partage des vivres et des produits de première nécessité livrés par la tribu chargée du ravitaillement. Bien qu'il fût fermé en cette heure matinale, les courants d'air colportaient des senteurs d'épices, d'herbes aromatiques, de viande séchée, de savon parfumé de Franzia. Si le temple de Salmon et le Torial étaient le cœur et la tête de la cité des lianes, le Soukto était le saint nourricier, le lieu privilégié où les femmes passaient des heures à discuter et rire devant les comptoirs, où les enfants profitaient de ces instants de liberté pour courir et jouer entre les interminables rayonnages. Des images d'un lointain passé défilèrent dans l'esprit de San Francisco. Il se revit à l'âge de 6 ans, grimper subrepticement sur les étagères et soulever des couvercles pour découvrir les trésors enfouis dans les caisses, des sachets de nourriture lyophilisée, des légumes congelés, des flacons de parfum, des sous-vêtements de laine, des chaussons d'intérieur, des bulles lumière, des microsphères atomiques de chauffage, des tubes de graisse protectrice et, merveille des merveilles, des jouets mécaniques, électroniques, magnétiques, en attente de distribution lors des grandes fêtes annuelles de la Christe native. C'était le temps de l'innocence, le temps où la Jérusalem de lumière n'était encore qu'un rêve, le temps où son père, le prince Seattle, lui racontait la fabuleuse histoire d'Exaxas et lui inculquait les premières notions de la responsabilité princière. Le temps où sa mère, Memphis, lui fredonnait les douces comptines du grand vaisseau de fer pour le rassurer et l'endormir. Le visage ensanglanté de Phénix et les grands yeux effrayés de Jack étaient le récif sur lequel se brisaient ses dernières illusions. Il reconnaissait certains visages dans la mer houleuse qui l'environnait, d'anciens sujets américains, plus vindicatifs et violents que les membres des autres tribus. Il avait cru qu'il pourrait changer le cours des choses, mais au fil de ces 80 siècles d'histoire, le peuple élu s'était profondément enraciné dans la glace de Jérusalem et dans ses certitudes. La parole des Abines, les versets de la Nouvelle Bible, l'autoproclamation de sa propre supériorité sur les humanités dispersées, la perspective de l'Éden et la distribution régulière de nourriture suffisaient largement à son bonheur. Le discours égalitaire de San Francisco, prince des Américains, n'avait convaincu qu'une poignée de contestataires, ceux-là même qui s'étaient mis à son service durant son exil. Phénix essuya d'un revers de manche les crachats et le sang qui lui ruisselait sur les joues et, en vain, chercha des yeux ses parents. Malgré la douleur cuisante de ses plaies, malgré le sentiment d'humiliation que lui procurait cette procession publique, elle s'évertuait à ne pas pleurer. Elle fixait ses bourreaux dans les yeux, droite et fière. Elle refusait de leur jeter sa faiblesse en pâture. Le bonheur bref mais intense de cette nuit valait bien toutes les promesses de l'Éden et constituait son bouclier, son armure. Saoulés de coups et de cris, ils débouchèrent enfin sur l'aire des glacières de chasse, alignés au pied d'un gigantesque tube de montée à ciel ouvert.
Je ne pensais pas que les oursigres sauvages avaient élu domicile dans la cité des lianes,
s'exclama Robin de Fart. De multiples griffures sillonnaient la face blême et ridée du vieux Syracusain, ornée d'un pâle sourire. Les deux glacieurs s'immobilisèrent à quelques mètres du bord du cirque des pleurs. Une gigantesque dépression blanche et cernée de hautes murailles de glace. Le trajet entre la cité des lianes et le cirque avait duré environ 2 heures, et 3 des 4 farfadets s'étaient déjà déployés dans le ciel, d'un bleu clair et uniforme. Jake commençait à souffrir du froid. Il ne sentait pratiquement plus ses pieds, ses mains, ses oreilles. Les dents du vent s'infiltraient par tous les interstices du manteau de cuir mal isolé par les sangles de tissu, lui mordaient cruellement la peau.
« Il doit faire -25 !»
avait lancé Robin quelques minutes plus tôt.
« Entre -35 et -40 !» avait corrigé un garde.
Il s'était fréquemment retourné vers Marty, penché sur le bastingage de la poupe du glacier, qu'il s'était à tout moment attendu à voir s'effondrer sur le pont. Mais le jeune Syracusain, la tête, les pieds et les bras nus, le reste du corps protégé par une mince épaisseur de coton, n'avait paru nullement accommodé par la température polaire et les rafales de bise. Ses traits étaient restés parfaitement détendus, sereins. Sa peau avait conservé sa carnation délicate et son aspect lisse. Ses lèvres ne s'étaient pas couvertes de cette teinte bleuâtre qui était le lot de ses compagnons, des gardes-princiers et des hommes d'équipage.
« Je ne vous connaissais pas cette insensibilité au froid !»
avait hurlé Robin, dont la voix s'était envolée dans les courants d'air générés par le déplacement du glacier.
« Que connaissez-vous de moi ?»
avait simplement répondu Marty. Seuls les congères, dont certains culminaient à plus de 300 mètres de hauteur, brisaient la monotonie de l'immensité blanche. De temps à autre, ils avaient aperçu dans le lointain les formes mouvantes d'une horde d'oursigres sauvages. Le grouillement brillant d'un troupeau de phoques argentés. Les ancres automatiques des glacieurs, munies de crochets, s'enfoncèrent dans la langue glaciaire. Le crissement du métal sur la glace dure prenait une résonance funèbre dans le silence feutré qui planait sur la banquise. Les bourrasques d'un vent sournois soulevaient des gerbes de neige qui accrochaient des éclats de lumière avant de se disperser et d'aller s'agglutiner sur les versants des congères en formation. Les gardes descendirent par un court escalier taillé directement dans la coque des glacieurs, se disposèrent en cercle autour des appareils et braquèrent leurs fusils à propagation lumineuse sur les condamnés, toujours entravés.
« Descendez !»
ordonna l'un d'eux. San Francisco sauta le premier sur le sol, puis aida ses compagnons à dévaler sans encombre les marches étroites de l'escalier.
« Alignez-vous devant le cirque des pleurs !» « Rien ne vous oblige à exécuter les ordres des abîmes !»
l'aida San Francisco avec force.
« J'en appelle à votre générosité, à votre humanité. Laissez repartir les 3 Gox et Phénix, et faites de moi ce que bon vous semblera. » « Une autre parole de ce genre, protecteur des Gox, et je te troue le cœur d'une onde lumineuse. Aligne-toi avec les autres !»
Jake jeta un bref coup d'œil derrière lui. Il y avait une dénivellation de plus de 30 mètres entre la surface de la banquise et le fond du cirque des pleurs. Il ne repéra aucun sentier,
aucun passage apparent, aucune bouche de tunnel. Il en déduisit qu'il serait poussé ou contraint à sauter, ce qui revenait au même, dans le vide et qu'il se briserait les os en contrebas. Cette sinistre perspective ne l'empêchait pas d'être étonnamment calme, comme étranger à lui-même. Il ne se sentait pas concerné par la pièce qui se jouait sur cette étendue blanche et dont il était pourtant l'un des acteurs principaux. Ressentait-on toujours le même détachement devant sa propre mort? Il demanda au spectre de Paatskin s'il avait en réserve un dicton approprié à ce genre de circonstances. Mais le spectre se contenta de le regarder d'un air à la fois désolé et moqueur. Des lueurs de regret se promenaient dans les yeux tristes du spectre de Man. Il prit alors conscience qu'il leur avait fait beaucoup de peine et leur demanda intérieurement pardon. Un garde sortit un trousseau de clés de sa combinaison, se détacha du cordon de sécurité et vint les désentraver. Le froid et peut-être la peur que les condamnés, embrasés par une ultime colère, ne le saisissent par le cou et ne le précipitent dans le cirque des pleurs, rendaient ses gestes imprécis, maladroits. Il ne prit pas le temps de ramasser les chaînes lorsqu'ils eurent desserré le dernier anneau. Il se hâta de regagner son poste et de récupérer son fusil.
« Déshabillez-vous !»
San Francisco lança un regard désespéré à Jack et à Phoenix. D'un geste rageur, il dégrafa le fermoir de sa cape qui glissa sur la glace dans un subtil froissement d'étoffe.
« Autorisez au moins l'enfant à conserver sa combinaison et son manteau !»
lança Marty qui s'était déjà débarrassé de ses sous-vêtements de coton. Le revirement d'attitude du jeune Syracusain déconcertait Jack. Il semblait tout à coup décidé à lui vouloir du bien. Non seulement il n'avait pas mis à profit le sommeil du petit Tangerien pour l'étrangler, mais il lui avait donné ses vêtements dans le cachot du Torial. Et voilà qu'il plaidait sa cause devant les gardes de Gersalimine. Marty avait-il expulsé le monstre qui se terrait au fond de lui? Jack avait-il imaginé toute cette histoire?
« Enfant ou pas, c'est une engeance infectée. »«
Quelle importance ?»
insista Marty.
« Dans quelques semaines, vous aurez atteint la Jérusalem céleste, et les races infectées n'auront plus la possibilité de vous nuire. »
« Au lieu de faire le malin, maudit Gok, aide l'enfant à se dévêtir. S'il n'est pas nu dans les 30 secondes qui suivent, je vous perfore à tous les deux la tête et le cœur. »
Probabilité de survie, 0,0001%. Nouvel aiguillage. Marty se rapprocha de Jack, dénoua rapidement les bouts de tissu qui maintenaient fermé son manteau de cuir, lui retira ses bottes, dégrafa les boutons de sa combinaison, la fit passer par-dessus sa tête. Instantanément, un froid intense, tellement intense qu'il en devenait brûlant, saisit le petit Tangerien. Il eut l'impression d'être dépecé par des milliers de petites lames chauffées à blanc, d'être écartelé des milliers de fois. Cela montait le long de ses jambes, se nichait dans son bas-ventre, lui investissait les poumons, les épaules, les bras. Une pieuvre invisible mais terriblement efficace qui divisait pour régner, qui séparait l'être en des milliers de parcelles inutiles, qui isolait chacune de ses cellules et les emprisonnait dans d'infranchissables gangs de glace. Jack n'osait plus esquisser un mouvement, de peur que ses bras ou ses jambes ne se brisent comme du bois sec. Il n'osait plus respirer, de peur que l'air ne gèle instantanément et ne lui obstrue la trachée artère. Une bouffée de chaleur lui envahit les épaules et le dos. Phoenix s'était collé à lui et l'avait entouré de ses bras. Les tentacules de la pieuvre se rétractèrent devant la tiédeur bienfaisante, vivante, qui se diffusait des seins et du ventre de la jeune femme. L'issue du combat ne faisait cependant pas l'ombre d'un doute, car le temps jouait pour le froid, qui se faufilait partout où il dénichait des failles, par les pieds, par les mains, par les moindres lambeaux de peau offerts à sa convoitise.
« Dans le cirque !»
cria le garde. Des rafales d'ondes lumineuses crépitèrent sur la glace à quelques pas des condamnés entièrement nus. San Francisco et Phoenix saisirent Jack par la main. Quelle affreuse sensation de déchirement lorsqu'elle décolla sa peau de la sienne et s'avancèrent vers le bord de la dépression. Ils ne sautèrent pas dans le vide comme l'avait cru le petit Tangerien, mais San Francisco prit Jack sur ses genoux et se laissa glisser le long de la paroi
moins abrupte qu'elle n'y paraissait au premier abord. L'ancien second du papy-duc prit soudain de la vitesse et ne put se maintenir plus longtemps en position assise. La glace rugueuse lui écorcha les fesses, le dos, les épaules et la nuque. Une saillie le fit subitement dévier de sa trajectoire. Jake lui échappa, roula sur lui-même et entama une folle glissade à l'issue de laquelle, 15 mètres plus bas, il percuta violemment le sol. Une épaisse couche de neige amortit sa chute, mais le souffle coupé par le choc, engourdi par le froid, il fut incapable de se relever.
« Ne reste pas immobile, Jake !»
glapit San Francisco. Le Gersalemine s'était rétabli en souplesse à une 20aine de mètres du petit Anjorien. Les gouttes de sang qui s'écoulaient de ses écorchures gelaient en quelques secondes. Phoenix, Robin et Marty atterrirent à tour de rôle sur le sol du Cirque des Pleurs.
« Bougez ! Bougez !»
dit-elle en aidant à se relever le vieux Syracusain étourdi par sa chute.
« À quoi bon ?»
soupira Robin.
« Nous ne retardons l'échéance que de quelques secondes. »
Un verset de la Nouvelle Bible dit « Vis, vis encore un jour, vis encore quelques minutes, vis encore quelques secondes. Elles peuvent à tout moment se transformer en éternité. Alors bougez !»
Robin sautilla sur place, davantage pour ne pas la froisser que par conviction personnelle. Ses pieds foulèrent la neige en cadence, mais il ne lui appartenait déjà plus. Il n'était que de lointaines et insensibles extrémités d'un corps décharné, d'un squelette enveloppé d'une peau flétrie, cassante. Jake avait perçu la voix de San Francisco comme dans un songe, mais il n'avait ni la volonté ni la force de remuer ses membres. La neige épaisse constituait un matelas paisible, confortable et brûlant sous ses jambes, ses fesses et son dos. Cet état s'apparentait à un profond sommeil, à cette différence que le petit Anjorien restait parfaitement lucide, parfaitement conscient qu'il ne reviendrait jamais de ce voyage. Une autre voix, intérieure celle-là, le suppliait de rassembler toute son énergie, de refuser le froid, de se relever. Il ne s'agissait pas de son instinct de survie, cette sirène d'alarme qui se mettait automatiquement à hurler dès que la mort s'approchait de trop près. C'était quelque chose d'indéfinissable. Un bruissement de source, un murmure à peine perceptible et d'une puissance inouïe, un chant majestueux qui provenait des profondeurs de l'espace. « Relève-toi et contemple le ciel, Jake !» Quelque chose le souleva de terre, lui effleura la joue, le dos, les épaules, le torse. « Contemple le ciel, Jake !» Il distingua des chuchotements, des gémissements, des cris qui semblaient traverser un mur d'eau. « Contemple le ciel !» Sa tête bascula sur le côté et un feu timide lui lécha la tempe et la joue. « Le ciel !» Des ondes de chaleur lui transpercèrent le crâne et se diffusèrent dans son corps. C'est alors qu'il commença à éprouver vraiment le froid, l'insoutenable tiraillement de sa peau, l'atroce douleur qui gangrenait ses os, ses organes, ses muscles, qui se déposait dans ses doigts gourds, sous ses ongles. Tant qu'aucun adversaire ne lui était opposé, le froid se déployait comme une ombre silencieuse et ne se croyait pas obligé de tourmenter ses proies avant de les emporter. Mais il mordait, griffait, déchiquetait, et dès qu'il était confronté à la chaleur, son ennemi intime, qu'il devait abandonner un territoire qu'il croyait définitivement conquis. La souffrance ranima Jake. Il ouvrit les yeux. Il aperçut d'abord des taches brunes, grises et noires qui s'agitaient au-dessus de lui. Les formes se précisèrent peu à peu. Pendant quelques secondes, il crut qu'il était agressé par une bête à 3 têtes et 6 bras. Puis il reconnut San Francisco, Phoenix et Robin, affairés à lui gifler la tête et le torse. La sensation était curieuse de la différence entre la puissance manifeste des coups qu'il lui assénait et les infimes picotements qu'ils abandonnaient sur sa peau engourdie. Quelqu'un remua sous lui, et il se rendit compte qu'il était allongé sur Marty, lui-même étendu sur la neige.
« Il ouvre les yeux !»
dit Phoenix.
« Ne vous arrêtez pas !»
rugit San Francisco.
« À quoi bon ? À quoi bon ?»
grommela Robin. La poitrine de Phoenix tressautait à chacun des coups qu'elle portait, et un voile blafard se tendit sur sa peau cuivrée et hérissée, faisait ressortir le noir mat de sa toison pubienne et des rivières ondulantes de sa chevelure. Des écharpes de buée s'évadaient de ses lèvres violacées, gonflaient l'épais nuage de brume qui l'environnait,
ses gestes se ralentirent peu à peu.
« J'ai froid. Je n'en peux plus, » gémit-elle.
« Résiste !» l'exhorta San Francisco. « Nous nous occuperons de toi dès que nous aurons fini avec Jacques. »
Bien que son dos et son bassin fussent en contact permanent avec la neige, Marty restait imperméable au froid. L'autre avait simplement implanté une suggestion mentale de chaleur constante dans l'esprit de son véhicule corporel. Les humains n'avaient pas conscience des fantastiques potentialités de leur cerveau. Dispersés par les sens, ces fenêtres qui les invitaient sans cesse à visiter le monde extérieur, ils omettaient d'explorer et de maîtriser la machinerie complexe qui régissait leur intérieur. C'était dans cet oubli que s'étaient glissés les envoyés de l'Hyponéros, dans cette faille qui s'était élargie avec le temps et qui métamorphosait les hommes en créatures ordinaires, vulnérables. À force de l'occuper, l'autre ressentait, ressentir n'étant qu'un concept approchant, une certaine attirance pour son véhicule corporel. Ces données de pure logique avaient probablement été altérées par les émotions, les pulsions, les pensées de l'humain qui l'habitait. Il était victime de la fascination qu'exerçait le monde créé, la matière, les formes, les ondes sur le vide. La peau de son véhicule touchait la peau de Jack, un humain source, et ceci expliquait peut-être cela. Ankylosé, épuisé, démoralisé, Phoenix se laissa tomber dans la neige.
« Relève-toi !»
hurla San Francisco. Il avait beau puiser dans ses ultimes réserves de volonté, il ne percevait plus ses jambes et il comprenait que la fin était proche.
« À quoi bon ?»
murmura une dernière fois Robin. Le vieux Syracusain s'effondra à son tour. Ses grosses veines bleutées saillaient sous sa peau presque aussi blanche que la neige.
« Adieu et pardon, prince des hyènes. »
San Francisco se détourna de Jack et s'allongea de tout son long sur Phoenix. Il ne parvint pas à écarter les doigts raides de la jeune femme pour y en serrer ses propres doigts. Elle ouvrait encore les yeux et une amorce de sourire se figeait sur ses lèvres bleu pâle. Il emportait avec lui l'image de son visage serein, égratigné, bouleversant de beauté. Un amour si fort qu'il traversa le pays de la mort. Un silence paisible recouvrit le cirque des pleurs. Les lances mordorées de Farfadet IV, le plus grand des quatre soleils des mondes néo-européens, embrasaient l'horizon.
« Contemple le ciel, Jack !»
Revigoré par la chaleur de Marty, le petit Anjorien leva les yeux sur l'azur éblouissant. Il vit alors la plaine céleste se couvrir de comètes aux somptueux panaches de feu. Les gardes princiers n'en croyaient pas leurs yeux. Massés au bord de la faille, ils avaient assisté à la lente agonie des condamnés dont le vain combat contre le froid les avait franchement divertis. Ils avaient repéré les formes blanches des grands oursigres sauvages qui émergeaient l'un après l'autre des replis des parois et se dirigeaient au trot vers les hommes offerts à leur insatiable appétit. Tout s'était déroulé comme prévu jusqu'au moment où les comètes étaient apparues en grand nombre, surgissant de nulle part, traçant des arabesques enflammées sur le ciel. Il percevait maintenant des bruissements étranges, envoûtants, qui provenaient du vide insondable. Les chants de l'espace, la danse des comètes. Des dizaines de colonnes de lumière bleue descendirent lentement des nues et se posèrent sur le sol du cirque des pleurs, qu'elles criblèrent de cercles scintillants. Les vents de clarté.
Bordel de merde, souffla un garde. Les signes avant-coureurs. Les Xaxas devaient atterrir au cirque de l'envol,
murmura un autre.
Il faut prévenir les Abines. Turin, Amsterdam, Montevideo, prenez un glacier et foncez jusqu'à Ilian. Je ne suis pas de ta tribu et je n'ai aucun ordre à recevoir de toi, protesta le dénommé Amsterdam. Je reste ici, ajouta Turin. « Je vais être là quand se poseront les Xaxas. Et tes parents, et ta femme, et ta fille. De toute façon, nous n'aurons pas le temps de faire un aller-retour jusqu'à Ilian. Selon la nouvelle Bible, la halte des migrateurs célestes ne dure que quelques secondes. »
Un nuage sombre obscurcit soudain le ciel.
Turin jeta son fusil sur le sol, retira ses bottes, sa combinaison, ses sous-vêtements de laine et entama immédiatement sa glissade le long de la paroi du cirque. Une dizaine de gardes l'imitèrent. Les autres, la mort dans l'âme, renoncèrent à leur chance d'accéder à la Jérusalem de lumière et choisirent de rester en compagnie des leurs sur la Jérusalem de glace. Le peuple élu devrait patienter 8000 ans de plus. Une formidable nuée de formes noires, bruissantes, se rassembla au-dessus de la dépression, occultant les rayons des farfadets. L'éclat des colonnes de lumière bleue se fit merveilleux dans la nuit subite. Les oursigres sauvages, comme affolés par l'obscurité, se lancèrent au grand galop sur la glace du cirque des pleurs. Leurs pattes puissantes et griffues soulevèrent des gerbes de neige.